Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, on se retrouve pour le flash résultat du week-end, les résultats sportifs donc des clubs charentais du week-end dernier, avant Culture Sport où nous allons recevoir Fabrice Landreau pour parler du tournoi destination, du SA15 et aussi du rugby de Cognac. On va commencer par le football avec la Régionale 1, la réserve de la CFC, qui recevait Boulazac hier au stade synthétique de Lunès. Un match important pour la réserve angoumoisine face à une équipe de haut de tableau. Les angoumoisins s'étaient en plus inclinés 3-0 au match aller, donc il y avait vraiment une revanche à prendre, et ça a été le cas puisque la réserve de la CFC s'impose 2-1 grâce à des buts de Noah Marchesso et de Thierry Lemaître. Une bonne opération puisque dans le même temps, Cognac perd à Panazol 2-1 et Fethia bat il 1-0. Au classement, la réserve de la CFC consolide sa 7ème place avec 25 points. C'est désormais donc 10 points d'avance sur Trélissac et 8 points d'avance sur Cognac. Cognac est 10ème avec 17 points. Donc ça va être malheureusement être dur pour les Cognacés. Prochain match pour la réserve angoumoisine le week-end prochain avec un match en retard du côté de Fethia. Donc l'occasion pour les hommes de David Perrier de prendre des nouveaux points. En Régional 2, en Poule A, bon match nul de Leroy contre Échiré Saint-Gelais, 2-2. Un match nul homérique pour les Métallos qui affrontaient une équipe de Deux-Sèvres qui évolue en Régional 1 la saison dernière. Donc un bon résultat pour Leroy qui surfe sur sa dynamique de match sans défaite. Leroy est d'ailleurs deuxième au classement avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls, 4 défaites et désormais voilà, c'est 8 points d'avance sur Saint-Sauveur qui est le premier relais cap, pardon, donc c'est plutôt une bonne affaire pour les Verts. En poule B, malheureusement défaite de la réserve de Cognac contre Fontaine-le-Comte, défaite 2-0 avec 3 expulsions côté Cognacé, lourde défaite également de Charente-Limousine du côté de Cozes, 4-0. Et défaite également de Merpin à Mini-Auxances 2-1. Donc week-end noir pour les Charentais en poule B. Charente-Limousine est 4ème avec 24 points. Cognac est malheureusement toujours dernier avec 6 points. Et Merpin est 8ème avec 20 points. En poule D, défaite également de Sireuil 2-0 contre Nontron-Saint-Pardoux. La bonne nouvelle est venue par contre de Jarnac. Jarnac qui s'impose 1-0 contre Saint-Émilion. Les Jarnacis qui peuvent croire au maintien, même s'ils sont toujours avant-dernier, eh bien l'écart se réduit avec les équipes de devant. Et d'ailleurs juste devant eux, on retrouve Sireuil qui est 10ème avec 19 points. Donc les deux formations charentaises sont en pleine lutte pour le maintien. En poule C de Régional 3, un seul résultat, puisque le match de Ruffec a été reporté, c'est le match nul de Confolan à Nieul-l'Espoir, 1-1. Les hommes de Vincent Villedieu avaient pourtant ouvert le score juste avant la mi-temps, mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, une main de Confolan a permis à Nieul-l'Espoir de revenir sur un penalty et rien ne sera marqué en deuxième mi-temps, donc 1-1 pour Confolan dans la Vienne. Confolan donc est toujours 5ème du classement avec 21 points et recevra Saint-Benoît la semaine prochaine en match retard, un match hyper important puisque Saint-Benoît est dans la zone de relégation. En poule F, la poule des Charentais avec la victoire de Saint-Arix 2-1 contre Verneuil-sur-Vienne, la défaite de Ruel 2-1 à Périgord-Centre, la défaite également de Soyaux à Saint-Junien 3-2, la victoire de La Roche-Rivière contre Ribérac 6-1 et la victoire de Vindel 1-0 contre Coulommiers-Chamiers. Au classement, Saint-Arix creuse l'écart. Saint-Arix compte 10 points d'avance, c'est ça, sur Coulommiers-Chamiers qui est deuxième. Cinquième, Vindel. Sixième, Soyaux avec 22 points. Septième, La Roche-Rivière avec 20 points. Neuvième, dixième, pardon, Pémoyen avec 17 points. Onzième, Ruel avec 13 points. Enfin, en poule G, nouvelle victoire de l'Alliance 3B, victoire 3-0 à Cabario. Les hommes d'Adnan et Larchi sont toujours en tête avec 46 points. C'est 16 points d'avance sur Rive Droite 33. Donc la balade continue. 16 matchs, 15 victoires, 1 match nul. Toujours aucune défaite. 10 buts encaissés, 61 buts marqués. L'Alliance 3B survole cette poule G. En district, seulement 2 matchs en retard en D1 avec la défaite de Saint-Michel à domicile contre l'Alliance 3B 3-1. Donc la réserve de l'Alliance 3B. Et défaite également de la réserve de Merpin 3-0 contre Moutier. Au classement, Saint-Michel reste deuxième avec 29 points. Les remontées sont pour l'Alliance 3B et pour Moutier qui sont 5ème et 6ème avec 21 et 19 points. Merpin reste 8ème du classement avec 16 points. Il y avait également la Coupe de Charente. On jouait les quarts de finale. Donc le Stade Lebon se rapproche pour les dernières équipes encore en lice. Qualification de Verdi 1-1 et qualification penalty au tir au but contre Bel Air. Qualification également de Basso 2-1 contre les Portugais du Gond. Qualification de Brie à Ruel 3-2 et qualification de Linard à Montbron 3-2. Donc ces quatre équipes sont qualifiées pour les demi-finales et donc ne sont plus qu'à une seule victoire du Stade Lebon. On va parler désormais de D1 féminine avec la Gisoyou qui avait un match hyper important à domicile contre Dijon. Dijon qui est le premier non relégable de cette D1 et surtout Dijon qui est entraîné par l'ancien entraîneur de Soyo, Sébastien Joseph. Match nul un partout, frustrant pour Soyo hein, qui a vraiment fait un très bon match et qui a eu beaucoup d'occasions pour l'emporter. Et c'est Dijon qui ouvre le score à la 43e minute sur un coup franc pleine lucarne de leur capitaine De Clercq qui permet aux Dijonnaises de marquer le 1-0 juste avant la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, Soyo a poussé et c'est finalement Fatima Comé qui égalise pour les filles de Michel Bradaya. Plus rien ne sera marqué un partout. Donc Soyo prend le point de l'espoir, mais malheureusement l'écart avec Dijon est toujours le même, c'est 6 points de retard. Et malheureusement 6 points de retard à 6 journées de la fin, ça va être compliqué pour Soyo, d'autant plus que bah, il y aura encore des grosses affiches à venir. On était d'ailleurs en fin de match avec Michel Bradaya, l'entraîneur de l'AG Soyo, qui nous compte son analyse du match. On l'écoute tout de suite.
Oui, sur la fin du match, effectivement, on a les premières occasions, même les situations et les occasions, on ne marque pas, c'est notre problématique depuis mon arrivée au mois d'octobre. On a du mal à on aurait pu marquer ce deuxième but pour gagner ce match-là, qui est un match extrêmement important qu'on maintient. Maintenant, je dirais que c'est le point de l'espoir. C'est le point de l'espoir aujourd'hui, donc il ne faut pas lâcher, les filles ont été extraordinaires. Donc moi je les félicite. Je félicite aussi parce que depuis un mois et demi, on a essayé de trouver une formule pour essayer de trouver quelque chose en plus dans le groupe avant le match de Rodez. Donc avec un effectif supplémentaire dans le staff, la personne de Tom Bouvier, pour essayer aussi de trouver peut-être quelque chose qui nous manque. On voit que c'est compliqué malgré tout, donc faut qu'on s'accroche et on verra la suite. C'est pas fini. De toute façon, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce qu'on ne peut pas se permettre de toute façon. De toute façon, c'est du sport de haut niveau. À un moment donné, il faut avoir cette mentalité de joueur de haut niveau, joueuse de haut niveau. Donc voilà, le mot c'est de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout. De toute façon, il reste 5 matchs au championnat, il n'y a pas de calcul, comme aujourd'hui. On a bien vu que les filles ont donné le maximum, donc c'est pas calculé, donc il faut faire pareil. Là, le prochain match c'est Reims. On n'a pas à calculer. Après ça va être Montpellier, on n'a pas à calculer. Il y a Bordeaux, on n'a pas à calculer. Il y a Guingamp, on n'a pas à calculer. Il y a Paris, à la dernière journée, on n'a pas à calculer. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun calcul à faire. Si on doit ne pas se maintenir, on doit le faire avec les honneurs. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Mais ce point-là, moi je pense, c'est le point de l'espoir. Il y a l'expérience, il y a aussi les blessés qui étaient au début, parce que quand je suis arrivé, il y a quand même 3 joueuses importantes du groupe qui étaient blessées. Elles reviennent tant bien que mal, on voit qu'il y a des rechutes. Je prends pour le cas d'Anna Clera, entre autres. Dès qu'elle rentre, on voit tout de suite qu'il y a une différence, quelle qualité de passe. Effectivement, c'est ces problématiques-là, de blesser, revenir. Donc garder un équilibre, c'est compliqué. Là, on a vu que les Dijon ont souffert sur chaque ballon qu'on a eu offensivement dans la transition offensive. On a bien vu qu'on faisait mal. On doit garder cet état d'esprit-là jusqu'à la fin.
C'est votre meilleur match d'ailleurs depuis votre arrivée à Soyo, vous pensez?
Non, c'est pas le meilleur match, parce que quand même les conditions de jeu sont difficiles, on sait très bien que le terrain est compliqué. Moi je parle surtout dans l'état d'esprit. Pour moi oui, c'est le meilleur match en état d'esprit, ça c'est clair. Ensuite, en qualité de jeu, non, il y a des matchs où on a été meilleur, on n'a pas gagné. Là, on voit que voilà, on égalise logiquement, on peut aussi à la fin de la situation, c'est dommage. Mais cet état d'esprit, oui, c'est de bonne augure pour la suite.
Puis c'est aussi le fait de revenir au score qui est de bonne augure, parce qu'avant, peut-être qu'un mois auparavant, vous auriez peut-être lâché et ce 1-0 aurait terminé en 1-0.
Bien sûr, mais là on n'a pas marqué depuis un moment. Les derniers buts qu'on a marqués, c'était quoi en Coupe de France contre le Mans. Donc c'est quand même, je dirais, je le sens, là, j'ai senti dans le vestiaire qu'effectivement, le fait d'avoir égalisé, ça fait du bien, il y a du soulagement. Vraiment, il y a du soulagement. Derrière, on espérait la victoire. Ça aurait pu basculer à un moment donné de l'autre côté aussi. Il faut féliciter aussi la qualité de Dijon, hein. Faut pas oublier, hein. Il y a quand même un adversaire de qualité en face. Oui, ça aurait pu basculer de l'autre côté, mais de leur côté aussi.
Il y a des risques justement de ne pas avoir gagné ce match avec les occasions que vous avez eues.
Oui. Après, vous me dites aussi que ils auraient pu marquer 2-0 à un moment donné.
Oui.
Contre le cours du jeu, parce que ce sont des contre-attaques, parce qu'ils étaient acculés vers leur but. Donc, ouais, il y a du regret, beaucoup de regret, parce que moi j'ai senti un autre état d'esprit, c'est sûr. Donc c'est de bonne augure pour la suite, mais le temps compte.
Voilà, et d'un entraîneur à un autre, on va également écouter Sébastien Joseph, hein, qui revenait sur le banc de touche de Léo Lagrange dans la peau de l'adversaire. Sébastien Joseph, désormais entraîneur de Dijon, qu'on écoute tout de suite.
Sébastien, match nul un partout à Soyo. Vous ouvrez le score au meilleur moment, juste avant la mi-temps, et vous faites égalité en deuxième mi-temps. Ouais. Match nul logique selon toi?
Non, enfin, ça reste un match quand même qui a été équilibré. Après, je pense que les opportunités les plus franches sont pour nous, et qu'on aurait pu mettre le deuxième à des moments importants. À 1-0, on a une grosse opportunité pour mettre le deuxième, ou un but partout aussi.
Ouais, vous avez voilà. Deux énormes occasions en fin de match.
Exactement, donc c'est frustrant à ce niveau-là. Et puis, effectivement, la manière dont on prend ce but est aussi un peu stupide. Donc, ça laisse forcément des regrets. Après, au niveau du classement, on va dire qu'on a maintenu Soyo à distance et qu'on a pris un point sur Rodez.
Oui, on va dire qu'au niveau comptable, l'essentiel est fait pour vous, c'est-à-dire que de ne pas revoir Soyo à 3 points de vous.
Oui, c'est ça. On avait d'autres ambitions, en tout cas. Et là, clairement, avec la victoire du Havre et la victoire de Guingamp, ouais, ça va nous laisser bord de zone de relégation. C'est un peu en dessous de ce qu'on s'était fixé comme objectif.
Bon, et puis pour finir, tu reviens à Soyo dans la peau de l'adversaire après avoir coaché la J pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Léo Lagrange sur le banc visiteur?
C'est toujours agréable de retrouver certaines personnes avec qui je dirais, on a apprécié travailler pendant toutes ces années. Et puis voilà, les retours ont été positifs. On va dire que mathématiquement, ils ne seront pas condamnés grâce à cause de moi.
Donc je vais donner les autres résultats de D1 féminine avec donc la victoire du Paris FC 2-0 contre Montpellier, la victoire de Lyon à Fleury 2-1, la victoire de Guingamp contre Bordeaux 2-0, la victoire du Havre contre Rodez 2-1, le match nul donc de Soyo contre Dijon 1 partout et la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 contre Reims. Lyon est toujours en tête avec 43 points devant le PSG avec 42 points. Soyo est toujours lanterne rouge avec 6 points. C'est 2 points de retard sur Rodez et 6 points pardon, de retard sur Dijon. Donc l'opération maintien se poursuit pour l'AJ Soyo. En rugby, on va rappeler donc les résultats de Cognac et de Barbezieux. Cognac s'incline à hier 26-7. Nouvelle défaite malheureusement pour la lanterne rouge cognacaise. Et Barbezieux, l'UBJ, s'impose à domicile avec la manière contre Bagnères. Victoire 23-3. Un bon pas fait pour le maintien par rapport au promu barbezilien. Donc c'est vraiment une très belle opération dans cette fédérale 1. En handball, victoire de l'ETEC en National 2 masculine, victoire de l'ETEC à domicile contre Saint-Nazaire, victoire 31-29. L'ETEC qui est toujours deuxième avec 3 points de retard sur Bruges. En National 1 féminine, victoire de la CH 32-31 contre Bruguière. Un match qui pourtant était mal parti puisque les filles de Mike Bidorini étaient de menées de 2 buts à la mi-temps, 17-15. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup d'expulsions temporaires. Il y a eu 6 expulsions temporaires en l'espace de 7 minutes. Ce qui fait que la CH s'est retrouvée en infériorité numérique pendant de longues minutes. Malheureusement, pour elle, Bruguière n'en a pas profité. Et finalement, la CH a été l'auteur d'une belle remontada pour s'imposer grâce à un but de Grandjean à 24 secondes de la fin. Et donc, victoire des Angoumoisines, 32-31, une victoire qui leur permet de prendre seule la 4e place. On est également au gymnase de la Grand Fond samedi soir et donc on va écouter Mike Bidorini, l'entraîneur de la CH.
Mike, victoire ce soir 32-31, un match finalement où vous revenez du diable vert. Vous êtes mené de 7 à 8 buts et finalement vous parvenez à arracher cette victoire dans les dernières secondes.
Oui, on a réussi avec le cœur, avec beaucoup de cœur, d'aller arracher cette victoire sur les dernières secondes, malgré qu'on a été dominé pendant une grande partie du match. Dans le secteur d'attaque, Bruguière a été fort. Mais par contre, on a su derrière se réadapter par rapport aux défenses qu'on a proposées. Et les filles n'ont rien lâché. Ça, c'est vraiment le mot à dire parce qu'elles n'ont rien lâché, elles y ont cru. Et du coup, c'est ça qui nous a permis d'aller chercher cette victoire.
En seconde période, vous avez beaucoup d'infériorité numérique, beaucoup d'expulsions temporaires, mais finalement, c'est l'adversaire en profite pas.
Non, l'adversaire en profite pas. Après, j'ai trouvé un petit peu l'arbitrage pas très cohérent dans les deux sens. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Par contre, voilà, c'est l'état d'esprit qu'on y a mis dans la deuxième mi-temps où on n'a rien lâché. Derrière, on a su se réadapter. Et voilà, c'est ce qui a permis d'aller chercher cette victoire.
Et donc, ce soir, c'est une troisième victoire d'affilée. Vous solidifiez votre place en tableau.
C'est surtout quand on creuse l'écart avec celle du bas. Donc ça, c'était
notamment par rapport à
avec Bruguière, du coup. Et du coup, c'était ça le plus important. Et bien sûr, de conforter notre place et de pas ce soir, on est quatrième, seul quatrième, même si Bergerac a un match en moins. Mais du coup, on va à Bergerac la semaine prochaine. Donc on peut consolider notre place de quatrième la semaine prochaine.
Bon, justement, un petit mot sur votre match de la semaine prochaine.
Un petit mot. Ben,
on dit jamais 203. Est-ce qu'on va pouvoir dire jamais 304?
J'espère qu'on va aller enchaîner parce que c'est pas facile d'aller gagner à Bergerac. Ça va être très 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 difficile, mais voilà, on a une quatrième place à jouer la semaine prochaine, donc il va falloir y aller avec de l'envie et du cœur comme on l'a fait aujourd'hui.
On va désormais parler de basket avec le déplacement périlleux de la couronne basket à Choré, une semaine après leur victoire importante contre Smash Vendée. Eh bien, les filles d'Eric Saquet à la Choré, défaite honorable pour la couronne qui s'incline seulement de 8 points, 60-52. La couronne est dixième avec 6 victoires et 13 défaites. Et donc l'opération maintien se poursuit pour les filles du LCB. qui sont donc à une victoire de Rillé et de Chantonnay. Donc tous les espoirs sont encore permis pour les Couronnaises. En régionale 1 masculine, eh bien pas de résultat à vous communiquer puisque le match entre Saint-Rogatien et la CTC Grand Cognac a été arrêté parce que le sol était trop glissant. Donc eh bien le match sera à rejouer. Dans le même temps, la réserve du CSP Limoges a battu le CEP Poitiers 74-72. Donc Limoges est en tête avec 15 victoires en 18 matchs. Le Grand Cognac est désormais 4e, mais Grand Cognac a un match en retard contre Saint-Rogatien. Donc les Cognacés pourront repasser en tête en cas de victoire sur leur match en retard. Et donc le week-end prochain, eh bien ce sera un match à domicile pour la CTC Grand Cognac qui va recevoir Limoges Landouge, l'actuelle lanterne rouge du classement. Peut-être une victoire à venir pour les Cognacés. On verra ça le week-end prochain. Enfin, on va parler de cross avec donc la finale des championnats de France de cross qui avait lieu à Carré en Bretagne. Compliqué pour les Charentais puisque aucun top 50 n'est à signaler. Meilleure performance, c'est chez les cadettes avec la 19e place de Laurine Avignot, l'athlète du CAC, donc du Cognac Athlétisme Club, qui termine donc 19e chez les cadettes. C'est la meilleure performance du week-end en Charente. Malgré tout, voilà, on a quand même vu plusieurs top 100, donc c'était assez intéressant. On a surtout vu qu'il y avait une grosse densité d'athlètes en France et que malheureusement, en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, le niveau est assez bas, entre guillemets, par rapport à l'Hexagone. Au niveau du trail urbain d'Angoulême, donc qui a eu lieu ce week-end également, victoire de Clément Biojou sur le 42 km. Clément Biojou, donc originaire de Bordeaux, qui bat également le record de l'épreuve. Donc une épreuve qui a encore réuni beaucoup de participants. Vraiment, c'est un succès populaire, ce trail angoumoisin. Et enfin, du côté du Tour des 4B, donc c'est la course cycliste dans le Sud Charente, victoire du Vendéen Nicolas Marceroux, qui remporte donc le Tour des 4B qui a eu lieu hier à Brossac. Premier Charentais, Lilian Langella du top 16. Lilian Langella qui termine 10e. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat. En attendant, Culture Sport avec Fabrice Landreau, l'œil de Charente Libre pour le tournoi Destination. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Vous êtes bien sur Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. C'est Attitude, votre radio en Charente, la première radio de proximité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission, chaque lundi, 19h-20h30. Nous recevons aujourd'hui Fabrice Landreau. Fabrice, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Ravi de t'accueillir de nouveau. Donc, c'est toujours un plaisir quand même quand on peut partager un peu de temps avec toi. Je te présente notre intervieweur numéro 1, Christian. Christian, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Oui, je vais poser des questions alors si je suis l'intervieweur numéro 1. On va commencer tout de suite, Fabrice.
Oui, bien sûr.
On va parler grosso modo de trois thèmes du coup dans l'émission. Bien sûr, le début de saison à Cognac. Ton arrivée au SA15 et puis on va terminer par le tournoi. Là, j'ai vu que la carte de presse Charente Libre était dans la poche, donc on va pouvoir parler aussi un peu du tournoi. On va commencer par l'ordre chronologique, donc par Cognac. Malheureusement, l'aventure s'est terminée courant octobre, si je me trompe pas. On t'a reçu dans l'attitude en fin de saison dernière, il restait encore 3-4 matchs à jouer, avec un maintien à obtenir. Finalement, c'est un maintien que vous avez obtenu de haute lutte.
Oh, de haute lutte. Disons que le groupe n'a pas lâché. Il y a eu beaucoup de persévérance de la part de l'ensemble du groupe. Ça tient du miracle, très honnêtement. Il a fallu attendre les résultats des autres. On n'avait pas notre destin en main. Et puis, cette fois-ci, la pièce a tourné du bon côté, avec le SA15 qui avait fait une grosse partie du travail pour nous en allant gagner à Aubenas et nous en allant faire un succès à Dax, qui fait que tout sur la dernière journée tout a été reposé et on a réussi à battre Chambéry et Aubenas s'est incliné dans les arrêts de jeu à Dax et donc ça nous a permis de poursuivre en national.
Alors, on se rappelle quand on gagne des titres, mais quand on obtient un maintien de haute lutte, comme ça a été le cas pour vous, est-ce que finalement, c'est presque comme gagner un trophée?
Oh non, c'est pas comme gagner un trophée, il y a absolument pas du tout les mêmes émotions, mais il y a, disons, le sentiment d'avoir rien lâché, et c'est quand même une jolie victoire. Voilà. Après, ça récompense aussi le travail de tout le monde, hein, puisque personne. Ma crainte, c'était que le groupe se lâche un petit peu psychologiquement, mais ça n'a pas été le cas. Donc, même avec des mauvais résultats, même dans la difficulté, on a toujours quand même à ce maintien.
Qui dit maintien dit une nouvelle saison au niveau national, malheureusement qui s'est beaucoup moins bien passé puisque même actuellement l'UCS malheureusement n'a toujours pas gagné le moindre match. Comment tu expliques finalement que le club n'ait pas pu surfer sur cette vague du maintien pour continuer à conserver sa place en national?
D'abord parce que le niveau national augmente chaque année. et que pour pouvoir y jouer une compétition comme le national, c'est quand même 26 matchs, hein, c'est un top 14.
Ça veut dire que pourquoi la poule de cette année était plus costaude que celle de l'an passé?
Non, c'était les mêmes équipes, mais par contre, les équipes chaque année progressent.
D'accord.
Donc il y a toujours des évolutions, des joueurs nouveaux qui arrivent, des staffs qui s'aménagent, des ambitions aussi. Il y a des villes qui ont des moyens économiques un peu plus importants qu'à Cognac. Et on est tombé nous cette année sur une difficulté d'abord financière parce que le club a perdu de l'argent sur la saison précédente et donc il a fallu réajuster le budget. Donc on est parti avec un budget bien moins important que l'année précédente. Et ensuite, il a fallu essayer de faire au plus vite. Remplacer 20 joueurs, c'est pas facile en un mois. Donc, on a essayé de faire au plus vite, en essayant toujours pareil, garder cette filière jeune. Et puis, on a essayé de regrouper, mais on a eu que 29 joueurs, donc tout ce qui n'était pas apte. Donc, c'était un petit peu juste pour toute une saison. Et même aujourd'hui, Cognac, c'est pas sur l'envie. Hein. L'envie, ils ont toujours très envie de l'emporter, mais ils jouent souvent à 21 joueurs, 22 joueurs. C'est jamais complet, jamais les mecs au même poste. Donc, sur une compétition comme ça, malheureusement, vous tenez une mi-temps, mais vous pouvez pas remporter de match. C'est compliqué.
Oui, c'est vrai que sur un marathon, comme c'est le cas avec 26 matchs, quand on n'a pas de rotation ou des rotations forcément moins établies ou moins quantitatives que les autres équipes, c'est forcément compliqué sur la durée.
Oui, très dur. Et puis après, ça attaque le moral aussi. Oui. Donc c'est là où vous avez moralement, mentalement, toute l'équipe commence à douter. Les blessures apparaissent aussi. Donc c'est lié. Et puis une fois qu'on est dans une spirale de défaite, très honnêtement, même si on se dit la semaine prochaine, on va donner le meilleur de nous-mêmes, mais malheureusement, psychologiquement, c'est compliqué et on connaît l'issue du match avant de l'avoir débuté.
C'est le sport en général, surtout sport co, quand on est dans une spirale négative, c'est très compliqué d'en sortir. Justement, quand on est coach, quel levier tu avais à ta disposition pour essayer de remobiliser les troupes du mieux possible?
Jusqu'à mon éviction, j'ai pas senti mon groupe lâché.
Oui.
Au contraire, on a joué les six premiers, quasiment les six premiers du championnat qui sont aujourd'hui en tête du championnat. Donc on a eu trois défaites de peu et puis après ça s'est vite passé, mais j'ai pas senti moi les joueurs baisser moralement ou psychologiquement. C'est plutôt après quand on enchaîne avec la 10e, la 12e, la 14e sur des équipes en plus qui sont à peu près de notre championnat et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, là on commence à se poser des questions. Donc c'est compliqué. Puis le fait aussi de ne pas avoir pu jouer avec les joueurs à leur poste, ça c'était difficile aussi pour avoir de la sérénité et une vraie assise d'équipe.
Oui, parce qu'en plus c'est vrai que le rugby c'est quand même un sport où on est hyper spécialisé finalement. Alors certes, certains joueurs peuvent jouer en deuxième voire troisième ligne, mais c'est vrai que il y a quand même des postes hyper précis. C'est un peu comme différent du foot par exemple où on peut changer finalement de poste plus facilement entre guillemets.
Oui, c'est ça. Les piliers, quand vous n'avez pas de piliers parce qu'ils sont blessés ou suspendus, vous pouvez pas les inventer. Hein. Pareil pour un meneur de jeu qui est un numéro 10, vous pouvez pas mettre n'importe qui en numéro 10.
Oui.
Voilà, ce sont des postes qui sont tellement importants que la personne qui en l'occurrence a cette responsabilité-là, ça devient tout de suite un gros manque et ça se ressent immédiatement dans les résultats d'équipe.
Question de curiosité personnelle, on m'a toujours dit que, enfin, j'ai toujours entendu dire que les piliers, alors je sais plus si c'est gauche ou droite, c'était des spécimens rares à trouver. Qu'est-ce qui change finalement entre un pilier gauche et un pilier droit pour que les droitiers soient durs à trouver?
Le pilier droit, c'est la clé de voûte de l'édifice des avants. C'est-à-dire que lui, quand il va pousser, il a deux joueurs qui poussent face à lui, le pilier gauche et le talonneur adverse. Donc il doit supporter la pression de deux joueurs.
D'accord.
Donc,
oui, parce que le talonneur, finalement, comme il est occupé à talonner le ballon, ne pousse pas.
Oui.
Ne pousse pas.
Voilà. Okay. C'est ça. Et l'adversaire, en revanche, ils sont deux à pousser sur le pilier droit. Donc ça doit être quelqu'un qui doit être très robuste. Et c'est pour ça que c'est assez rare à trouver.
Et puis forcément, un mot sur ton poste quand tu étais joueur, le talon, c'est un poste hyper technique parce qu'il y a le lancer de touche.
Oui.
qui est hyper spécifique, mais il faut aussi assurer en mêlée aussi.
Oui, c'est ça. C'était un poste assez complet. Le talonneur, qui est toujours le cas, il doit être d'abord très bon au niveau du lancer parce que c'est devenu maintenant avec les lifts en touche un gain de ballon assez facile. Donc il faut être assez adroit. Et puis après, il faut aussi être robuste et solide en mêlée parce que on est au milieu de ce pack. Hein, et donc c'est nous qui donnons les orientations de la poussée, qui ressentons toutes les forces de l'adversaire, toute la puissance qu'il peut mettre avec les différents leviers de pression. Et donc il faut être capable de faire glisser cette pression là et de donner le ballon le plus rapidement possible au numéro 8 par un talonnage.
Et puis finalement, c'est vrai qu'aussi le talonneur, c'est le premier homme à lancer les offensives quand ça part d'une pénale touche.
Ouais, c'est vrai que c'est celui souvent qui marque les essais parce que c'est le dernier à arriver sur la construction
oui,
du maul.
Tout à fait.
Donc c'est à lui que revient le ballon et c'est
finalement lui c'est lui qui touche le premier le ballon et
oui, c'est lui qui jette le ballon et qui finalement se récompense à la fin. C'est un peu ça.
Donc finalement ça part du talonneur un peu sur ces constructions.
Oui, c'est un poste c'est pareil hein, vous avez toutes les équipes, dans toutes les équipes le profil du talonneur c'est quelqu'un d'expérimenté et c'est un poste clé qui fait partie de ce qu'on appelle la colonne vertébrale d'une équipe.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe différents types de talonneurs, différents profils de talonneurs?
Ah oui, bah vous le voyez en équipe de France hein, vous avez Marchand qui lui est un talonneur assez massif, très bon gratteur, très bon lanceur et à côté de ça, vous avez Movaca qui lui va peut-être être un petit peu moins précis au lancer. Par contre, c'est un garçon ultra dynamique, capable de marquer des essais vraiment à la course comme un troisième ligne et d'ailleurs avec le Stade Toulousain dernièrement, il a joué troisième ligne.
D'ailleurs, moi, quand j'étais plus jeune, du coup, j'adorais un talonneur que tu as dû croiser peut-être avec l'équipe de France. C'est Thompson, le talonneur de l'Angleterre.
Oui.
Que je trouvais très bon, qui avait beaucoup de gaz notamment et que je trouvais très bon.
Thompson, pour l'avoir joué, c'était déjà un monument. Hein. Il mesurait 1m90, il pesait presque 120 kilos. C'était ce qu'on appelait à ce moment-là, quand le règlement, puisque les règles de mêlée ont changé, mais c'était vraiment le morphotype de joueur qui était recherché à l'époque, c'est-à-dire très grand, très massif, parce que les mêlées se gagnaient à la poussée et pas au talonnage.
Il y a eu aussi l'exemple de la Barrarita argentine, Fabrice.
Alors oui, alors ça c'était un mode de poussée qui existait dans les années 80, où justement les piliers et les deuxièmes lignes, c'est-à-dire le cœur du pack, mettaient la pression sur l'adversaire avec les appuis inversés. Donc ça veut dire qu'ils avaient une poussée très coordonnée, très droite, un petit peu comme le tir à la corde au niveau du Pays Basque. Et donc c'était la coordination des poussées, de tous les joueurs dans le même sens, avec les mêmes appuis qui faisaient qu'ils étaient terribles. Et ils mettaient donc ils orientaient leur poussée uniquement sur le talonneur, grâce à leurs appuis intérieurs. Et donc le talonneur adverse, je vous garantis qu'il sautait comme une bouteille de champagne, hein. Comme un bouchon de champagne.
Pour en revenir à l'UCS, est-ce que j'imagine que tu suis forcément toujours les résultats de l'équipe. Est-ce que tu as pu retourner voir des matchs au stade ou c'était quelque chose qui était compliqué pour toi d'y retourner?
Oh non, j'ai pas pu y retourner parce que la manière dont on m'a évincé, pour moi, elle était pas loyale. Et en tout cas, c'était pas digne des valeurs que l'on connaît au rugby. Sur le fond, il y a aucun problème. Un entraîneur qui gagne pas 6 matchs, le fait qu'il soit remercié aujourd'hui, ça fait partie du lot des entraîneurs. Il faut trouver un électrochoc. Moi, ce qui m'a le plus embêté, c'est la forme où ça s'est fait en 12 heures. Mon éviction, je n'ai pas eu le droit de m'exprimer. Je n'ai pas eu le droit de rencontrer les joueurs ni mes présidents. Je ne sais même pas pour quelle raison j'ai été remercié. Et donc ça s'est fait du jour au lendemain, quoi. À 17h, on perd le match.
Oui.
Et le lendemain matin à 11h, on m'informe que les joueurs ont voté contre moi et qu'ils veulent plus que je les entraîne. Et donc je suis écarté jusqu'à nouvel ordre.
Ah oui, ça a été vraiment express au final.
Voilà, ça a été express sans avoir de dialogue ni de comprendre ce qui m'arrivait. Alors moi, bien sûr, j'étais très impliqué là-dedans, mais mon adjoint qui s'appelle John Donivoku, qui est toujours d'ailleurs entraîneur des trois quarts, lui non plus n'a pas été informé, hein.
Bon,
donc c'est plus la forme que je condamne que le fond.
Oui. Et donc, il y a ce départ à Cognac et puis il y a cette arrivée. Alors cette arrivée entre guillemets, puisque tu es toujours licencié ou salarié du coup de l'UCS. Cette arrivée en tant que consultant au SA15 depuis ton arrivée, depuis celle de Laurent Cardona. Alors je dis pas que c'est l'effet Landreau et que c'est l'effet Cardona, mais en tout cas c'est vrai que pour l'instant les résultats sont plutôt bons.
Alors les résultats sont meilleurs. Après encore une fois c'est pas l'effet de qui que ce soit.
Bien sûr.
C'est surtout le travail des joueurs et le travail du staff. Et à un moment cette équipe était dans une spirale de défaites. Il y avait 7 défaites et Didier Pichot a essayé avec l'accord du staff hein, d'essayer de trouver des personnes extérieures qui allaient donner un regard différent ou peut-être assurer. C'est ce qui s'est passé. Laurent Cardona, de par son expertise, a mis en avant tous les points qu'il pouvait facilement gommer. Et donc, il a fait un travail très spécifique sur le type de faute et comment les évacuer rapidement. Et ça a bien, en tout cas, ça a bien rassuré les coachs, parce que c'est ce que disaient les coachs à la vidéo, mais c'était moins entendu. Et puis moi, ben, je fais simplement un travail de vraiment assez loin de tout ça, avec les entraîneurs, où j'ai un rôle de conseil, mais où j'interviens nullement sur le terrain ni rien. Donc, c'est plutôt le travail des joueurs qui est récompensé, et puis le travail, la persévérance des entraîneurs. Ça, c'est sûr.
Oui, en plus, dans une période hyper importante, puisque il y avait 7 défaites de suite, et puis c'est vrai que le SA15 jouait ses trois principaux concurrents au maintien, donc c'était des finales qu'il fallait absolument remporter, et le club a fait 3 sur 3, ce qui lui permet de sortir de la zone rouge, mais finalement le plus dur reste encore à faire, parce que d'y être sorti c'est bien, maintenant il faudra ne pas y être au sort de la 30e journée.
Ouais, disons que là les trois prochains matchs c'est les phases finales du SA15, avec deux réceptions contre des gros morceaux qui sont Grenoble la semaine prochaine, un déplacement à Aurillac. Et ensuite la réception de Provence Rugby. Donc voilà, les joueurs ont les cartes en main aujourd'hui. Ils ont réussi à se repositionner dans la course au maintien. Donc maintenant, il faut confirmer les bonnes attitudes qu'on a pu observer lors des 4 derniers matchs, parce qu'il y a eu un match intéressant, même s'il y a eu une défaite, mais il y a eu un match très intéressant qui a été appliqué par les joueurs du SA15.
Oui, à Agen du coup.
À Agen avec une petite
défaite. Avoir pris un point, c'est un vrai bonheur.
C'est récompensé, c'est récompensé le travail des gars, mais c'est une défaite à 4 points, mais qui aurait pu basculer en victoire. Donc il faut que ça reste, il faut prendre que le positif, se dire que il en manque encore un peu, et puis bien se concentrer, se focaliser sur la réception de Grenoble dans une semaine.
Bon, d'ailleurs du coup ce sera le Landrico au Grenoble.
Tu vas être partagé, Fabrice, entre...
Oui, je vais être partagé, mais bon, on va dire que, d'abord, priorité à la Charente, et à son club charentais.
Mais d'un côté, c'est un super symbole, au final, d'avoir fait appel à toi, Laurent Cardona, c'est toutes les forces vives du rugby charentais qui s'associent pour essayer de maintenir le SA15, qui est la vitrine du rugby charentais en Pro D2.
Oui, c'est important, surtout, parce que les clubs du département, que ce soit la Couronne, que ce soit Barbezieux, que ce soit Cognac, ont besoin d'avoir un club fort. On sait qu'on a La Rochelle, mais c'est à 150 km, mais on a besoin d'un club fort en Charente et en Angoulême. Aujourd'hui, c'est la locomotive. Le fait de les accompagner ou d'apporter peut-être un petit truc, même un simple détail, même une présence, c'est montrer aussi toute la solidarité qu'on a pour notre sport et pour le SA15. Donc il faut tous se mobiliser pour faire en sorte que le SA15 reparte l'année prochaine en Pro D2.
Oui, et puis c'est aussi signe vraiment que la direction, Didier Pitou en premier, se démène, n'est pas inactif et vraiment cherche toutes les solutions possibles pour que sportivement ça puisse tourner du bon côté.
Ah oui, vraiment, honnêtement, il dort pas bien toutes les nuits parce qu'il est toujours très inquiet. Le destin il est entre nos mains et il dépend de nous. Il sait que ça va être contre les plus grosses équipes de championnat, parce que ce soit Biarritz, Mont-de-Marsan, Oyonnax, Provence, ils vont tous à Grenoble. Tout le monde va vouloir assurer sa qualification.
Mais finalement, Carcassonne aura à peu près le même calendrier, mis à part un déplacement à Montauban.
Oui. C'est ça, et un Montauban, on peut espérer que Montauban cette fois-ci l'emporte.
Oui,
mais en tout cas, ça va être très très juste. Mais très honnêtement, si Angoulême pouvait l'emporter à domicile contre Grenoble, bon, déjà ça permettrait de prendre un petit peu plus d'avance par rapport à ses adversaires directs, et voilà. Et ensuite Provence Rugby derrière. Ce serait peut-être quasiment la finale et se sortir de cette zone rouge par rapport aux résultats des autres. Mais bon, voilà, la chance qu'aujourd'hui vraiment, ce qu'il faut. Il faut prendre conscience que le SA15 s'est redonné la possibilité d'avoir son destin en main. Donc les compteurs sont remis à zéro avec un petit point d'avance sur ses concurrents directs. Et il faut rester devant à la 13e place, devant tout le monde jusqu'à la fin.
Oui, et puis c'est vrai que aussi maintenant le SA15 peut se permettre le luxe de regarder ce que font les autres, parce que quand on est relégable comme l'a été Angoulême, eh bien, il y avait d'abord une seule chose à faire, c'était gagner les matchs.
Oui. Et puis, il y avait surtout 4 ou 5 points de retard par rapport à Montauban qui ont été complets.
Par rapport à Carcassonne aussi, d'ailleurs.
Exact.
Par rapport aux faits pratiques, comment se passe ton consulting avec... est-ce que tu es directement en lien avec les joueurs lors de leurs entraînements? Ou est-ce que finalement, c'est plus des rendez-vous ou des réunions avec le staff déjà en place?
Déjà, le staff me permet d'assister à toutes leurs réunions en toute transparence. Ils me demandent parfois mon sentiment, mon avis. Lorsque je vois des choses que je trouve pertinentes, j'en fais part à Vincent, j'en fais part à Tanguy. Et même parfois, je veux dire, même au prépa physique. Donc j'essaie d'être curieux et puis voilà, de challenger plutôt. Ensuite, lorsqu'il y a des études d'adversaires, même chose, quoi. J'aime bien étudier les matchs et puis moi je leur fais part de ce que j'ai pu voir par rapport aux opportunités qu'on peut avoir, aux forces et aux faiblesses de l'équipe qu'on va rencontrer. Et puis après, bon, on partage, mais c'est toujours le staff de toute façon qui fait ses choix et qui décide à la fin.
Oui, oui, tout
mais
à
en
fait.
Tout cas, il y a beaucoup d'échanges.
Comment on vit alors un match quand on est consultant? Est-ce que c'est différent? On est forcément en tribune, mais est-ce que c'est différent de le vivre en tant qu'entraîneur, par exemple?
Oui, c'est complètement différent parce que on est quand même.
Il y a plus de détachement ou on est quand même hyper impliqué?
Il y a plus de détachement. Après, il y a aussi plus de recul et de vision. Oui. Puisque, moi, j'ai pu assister toute la semaine, en fait, aux préparatifs et à la stratégie qui a été mise en place. Et puis après, je vois si ça a été appliqué ou pas pendant le match. Donc, ça me permet, comme le match d'Agen, de pouvoir à la mi-temps, ou pendant le match, me rapprocher du banc de touche, de donner mon ressenti à Vincent, à Tanguy, par rapport à ce que je vois. Là, ce qui était bien à Agen, c'est qu'à la mi-temps, il y avait vraiment beaucoup de calme et beaucoup de sérénité à travers l'équipe. Et puis, juste avant de donner les dernières consignes, on a pu se voir avec Tanguy et Vincent, et puis on a pu échanger voilà, tranquillement, et après Vincent a donné les infos qu'il fallait, mais on était raccord sur par rapport à ce qu'on avait vu, quoi. C'était plutôt bien.
Bon, et puis comment ça s'est passé avec Vincent Etcheto? Parce que c'est vrai que vous étiez adversaire la saison dernière.
Ah ben, on était plus qu'adversaire, on s'était même mis quelques...
Vous connaissiez avant l'an
dernier? Non, on s'est joué très peu. Moi, je me souviens de l'avoir joué peut-être une ou deux fois lorsqu'il était au Racing, mais je le connaissais pas tellement bien. Et puis l'année dernière, on n'avait pas discuté, on s'est salué, mais on n'avait pas été plus loin que ça. Pour le match aller, hein, pas le match retour, on s'est pas vu.
Oui.
Parce qu'il y avait beaucoup d'énervement autour du Achanzy. Puis bon, après, c'est vrai qu'il y avait eu ces échanges un petit peu... par presse interposée. Donc on s'est rencontrés. Didier Pichot, encore une fois, a fait ça en bonne intelligence. Il nous a réunis pour un dîner en disant bon voilà, on va essayer de faire ça avec du bon sens et puis en se respectant les uns les autres. Et puis bon, on a pu partager, échanger. Et voilà, on s'est dit les choses qu'on avait à se dire par presse interposée, mais en revanche, on est tous les deux passionnés de rugby, et puis ça, voilà, ça se passe très très bien. Il a été super sympa de m'accueillir, il est très transparent, et il me demande même parfois un peu mon sentiment, mon avis, ce que je ressens. Bon, voilà, donc c'est vraiment une bonne collaboration, c'est ça.
Dans ces cas-là, le plus important, c'est l'institution, donc c'est le club au final.
Oui, c'est surtout les joueurs. Voilà, le club évidemment, mais c'est les joueurs qui vont réussir ou pas le tour de force de se maintenir. Donc c'est eux qu'il faut accompagner, c'est eux qu'il faut rassurer. Et là encore, moi j'aime bien avoir des échanges avec eux, être près d'eux, même parfois par rapport à moi, ce que je connais, par rapport à mes spécificités, apporter un peu mon expérience en complément avec Tanguy et puis Younes qui s'occupe de la mêlée. Voilà, et puis je pense que les joueurs ont besoin d'être rassurés. Hein. C'est des garçons qui lâchent rien. Ils ont été vraiment courageux lors des 4 derniers matchs, et là, comment dirais-je, ça, il y a une petite éclaircie qui apparaît. Leur destin, ils l'ont en main, et ben, il faut qu'on essaye de les aider pour qu'ils arrivent à passer la dernière étape.
Alors, c'est toujours compliqué à projeter, mais sur les 7 derniers matchs, tu penses que combien de victoires pourraient suffire pour le maintien, même si forcément ça dépend du bilan des autres équipes aussi.
Alors, il faudra vraiment faire une
carton plein domicile.
Alors, je dis pas tous les matchs, mais le match qui va être charnière, déjà, c'est la réception de Grenoble.
Oui.
Après, je pense qu'il faudra voir par rapport au résultat des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, Angoulême est capable de battre Grenoble et capable de battre Provence. Voilà. Après, il faudra voir dans quelle situation on est, par rapport aux adversaires, avant la réception de Biarritz et de Mont-de-Marsan, qui eux vont aller chercher vraiment, comme Grenoble d'ailleurs, les qualifs.
Donc, oui, tout à fait.
Ce sera peut-être des matchs différents, mais il faut vraiment réussir ce match contre Grenoble.
Sachant que Carcassonne, dans le même temps, recevra Mont-de-Marsan, se déplacera à Béziers et recevra Biarritz. Hein, donc, c'est pas non plus
si
facile.
Ouais. Non, mais ils vont avoir les adversaires qu'Angoulême touchera dans 5 semaines. On a un vrai match à distance, voilà.
Ouais, d'autant que Carcassonne a un calendrier assez semblable à celui de SA15, non?
Oui, c'est pour ça qu'il était cette victoire à Carcassonne, elle est vraiment importante. Voilà, il y a deux matchs qui sont super importants. C'est le match d'avoir battu Massy deux fois à domicile et à l'extérieur, même d'un point, et d'avoir battu Carcassonne à la maison et à l'extérieur.
Bah oui, parce que ça oblige Carcassonne à terminer un point devant toi.
C'est ça. Donc ça veut dire qu'ils sont condamnés à l'exploit et à faire quasiment un sans faute. Voilà, donc ça veut dire qu'en cas d'égalité, on sera devant ces deux équipes.
Bon, et ben, en espérant que la fin de saison se passe bien pour le SA15 et surtout que le SA15 reste en, en Pro D2 parce que c'est important et c'est toujours compliqué en plus de faire l'ascenseur entre les niveaux donc on espère vraiment que le club pourra se pérenniser à nouveau en Pro D2 l'an prochain et les années à venir.
Et les années à venir, exactement.
Il nous reste 4 minutes pour parler du tournoi. Christian, je te laisse le soin
de on va profiter forcément de l'œil de Fabrice Landreau. Moi, j'avais juste deux questions à lui poser. La première, c'est tout simplement de nous sélectionner sur ces 6 équipes-là, 2 équipes, une qui t'a vraiment plu et une qui t'a un peu déçu. Alors, je parle pas forcément des résultats, hein, mais plus vraiment du jeu proposé par les équipes.
Alors, une équipe qui a pas de résultat, mais qui me séduit, c'est l'Italie.
Ben c'est pour ça que je te posais cette question-là de cette forme.
Ouais. En fait. Parce que vraiment l'Italie, c'est une bouffée d'oxygène. Ils ont mangé leur pain noir pendant des années. On voit bien qu'ils sont encore loin pour obtenir de vrais succès face aux grosses nations. Mais en tout cas, ils essayent. Le jeu proposé est vraiment très agréable. C'est du rare rugby, même très construit. Hein. Mais en revanche, il y a énormément de phases de jeu. Il y a des joueurs de talent. Donc c'est vraiment la bonne surprise des Italiens de ce tournoi. Et l'équipe qui aujourd'hui me déçoit, c'est malheureusement le Pays de Galles. Voilà, qui a du mal à se remettre bien du départ de leur coach et surtout de cette génération qui finalement n'arrive pas à trouver le bon rendement et tous les problèmes également qui sont liés à la restructuration de la fédération, ces problèmes financiers récurrents où il y a des joueurs qui vont devoir s'expatrier parce qu'ils sont plus payés par leur fédération. Je pense que ça mine un petit peu aussi le moral des joueurs gallois qui sont bien moins solide que les années précédentes.
Ça va vite le rugby parce que il me semble que le Pays de Galles c'était pratiquement les favoris il y a 4 ans pour la Coupe du Monde, ou en tout cas l'un des favoris.
Oui, et puis même l'année dernière ils étaient à deux doigts de remporter le tournoi. Oui. Donc voilà, ils étaient en bataille avec nous pour le Grand Chelem. Donc aujourd'hui c'est une équipe, c'est l'ombre d'elle-même, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de blessés. Le championnat en Pro 14, le championnat gallois, n'est pas florissant. Le financièrement, le rugby gallois est dans le rouge, et ça a forcément un impact sur les joueurs et leur mental. L'équipe de France, on a bien senti face à l'Italie, on a eu une victoire difficile en Italie. Oui. On a bien vu qu'on avait des joueurs qui étaient en on va dire pas en méforme mais qui était fatigué et qui pesait moins sur le jeu français. Après on peut se poser aussi la question de ce nouveau style de jeu qui est le jeu de repossession où l'équipe de France cherche à porter plus le ballon, chose qu'elle ne faisait pas les années précédentes. Et là encore une fois il y a cette période d'adaptation qui est pas encore acquise, donc il faut leur donner un petit peu de temps et cette année ça va être un tournoi qui sera compliqué, mais c'est peut-être ce qui va justement leur montrer eh bien les failles que peut avoir cette équipe et les rendre plus forts pour préparer la Coupe du Monde, parce qu'il ne nous reste plus que maintenant 6 matchs avant le début de la Coupe du Monde.
Parfait Fabrice, on va te libérer parce qu'on sait que tu as des occupations importantes. Merci d'avoir encore
merci à vous.
Merci d'avoir accepté notre émission. On te souhaite le meilleur Fabrice et on te dit à
merci beaucoup. Merci Attitude.
Merci, bonsoir Fabrice.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.